Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et ce matin, nous allons parler d'un petit animal qui s'appelle le campagnol amphibie. Ce petit animal a été trouvé sur un chantier, le chantier de la déviation RN 88. Ça se passe en Haute-Loire. Face à lui, des pelleteuses interrompues par sa présence. Pour nous expliquer de qui il s'agit, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rigaud. Bonjour Pierre.
Bonjour Natacha.
Alors comment un petit campagnol peut arrêter des pelleteuses ?
Alors pour l'instant, il n'arrête pas grand-chose, faut bien dire, hélas.
C'est l'idée en tout cas, c'est ce que souhaiteraient les associations de protection de l'environnement.
Oui, des naturalistes locaux ont découvert la présence de cette espèce, qui est une espèce classée protégée. Alors il y a plein d'espèces différentes de campagnols, la plupart ne sont pas protégées, sont très communs, mais le campagnol amphibie, qui a la particularité de vivre dans les milieux aquatiques, au bord de l'eau, des rivières, et qui est beaucoup plus rare que la plupart des autres, lui est protégé, et sa découverte, très récemment sur ce projet routier de contournement routier de déviation en Haute-Loire, s'ajoute à la liste d'autres espèces déjà trouvées sur le site et qui sont elles aussi classées protégées. Donc c'est la bataille entre les associations de protection de la nature locale et les promoteurs de ce projet. Mais hélas, c'est que dans les films où vraiment de façon très exceptionnelle que la découverte d'un scarabée ou d'une espèce protégée d'un campagnol empêche un chantier.
Je savais que ça allait vous faire réagir, évidemment. Alors, il faut savoir que cette déviation, qui est censée dévier Saint-Austien et Le Pertuis, est une déviation qui traverse une zone humide. On sait que les zones humides sont vraiment des zones riches en biodiversité. Et donc, c'est aussi pour cela que les associations de protection de la nature se battent.
Oui, toutes sont vraiment vent debout localement contre ce projet. Alors ce projet qui a des défenseurs, il faut bien le dire, notamment certains habitants qui seront positivement impactés par le fait que la route s'éloigne de certaines habitations, mais d'autres au contraire seront touchés. Et puis surtout, effectivement, des zones humides et des terres agricoles. C'est pour ça qu'il y a vraiment dans l'opposition à ce projet à la fois des écolos, mais aussi des paysans, toutes sortes d'agriculteurs. Parce que alors les opposants au projet disent que malgré quelques avantages qu'on peut retirer, c'est un énorme projet à 200 et quelques millions d'euros pour faire seulement quelques kilomètres de route, mais par contre qui va avoir un impact énorme localement sur la biodiversité et particulièrement sur les milieux humides, et qui impacte donc notamment des espèces protégées comme le campagnol amphibie, qui devient assez rare dans la région.
Alors justement, puisque cet animal est rare, on ne le connaît pas bien, est-ce que vous pouvez nous parler de lui, nous expliquer comment il vit, voilà, c'est quoi un campagnol amphibie en plus?
Et oui, parce qu'alors il y a au moins 13-14 espèces différentes de campagnols en France qui sont des petits rongeurs qu'on peut différencier par exemple des mulots ou des souris, en ce sens que les campagnols ont un aspect plutôt, assez rondouillard, des oreilles qui sont petites, contrairement aux souris ou aux rats qui ont des grandes oreilles, une queue globalement moins longue que les rats ou les souris, et ça ressemble à une petite boule de poils qui passe complètement inaperçue. Et parmi tous ces campagnols, le campagnol amphibie qui est un peu plus grand que les autres, qui fait à peu près la taille d'un rat, il a un pelage brun chocolat, assez épais. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a rien de remarquable, justement, sur le plan de la morphologie.
C'est vendeur, dit comme ça,
c'est
Pierre.
Ah, mais attendez la suite. C'est que ce qui est extraordinaire, parce que il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur cette espèce il y a quelques années, les campagnols amphibies, ils ne payent pas de mine, à part qu'ils sont très mignons, franchement, parce qu'une petite boule de poil brun chocolat, c'est toujours mignon quand on aime les petits mammifères. Mais c'est surtout qu'ils ont un mode de vie qui est vraiment extraordinaire, puisqu'ils sont complètement liés à l'élément aquatique. Ils vivent au bord de l'eau, ils nagent parfaitement. Ils plongent pour regagner l'entrée de leur terrier qui est sous l'eau, qui leur permet d'éviter des prédateurs qui en surface peuvent, par exemple les hermines ou les belettes, vous savez, c'est tout petits carnivores qui sont capables d'aller poursuivre les autres campagnols jusque dans leur terrier, ce qui d'ailleurs aide les agriculteurs, mais sauf que les campagnols amphibies, eux, ils sont à l'abri parce qu'il faut plonger pour aller rejoindre l'entrée de leur terrier. Et bien ces campagnols amphibies, malgré leur vie aquatique ou amphibie, ils n'ont pas d'adaptation spéciale visible. Par exemple, ils n'ont pas les pattes palmées comme l'ont les castors ou les loutres. Et pour autant, ils sont très à l'aise dans l'eau. Et ils sont tellement à l'aise dans l'eau qu'ils sont complètement dépendants de ce milieu-là. Et c'est ça qui les rend très fragiles, en fait. C'est qu'ils ont su s'adapter à une niche écologique très particulière, où il n'y a pas trop d'autres concurrence avec les autres espèces de campagnols, par exemple. Mais ça les rend très, très précaires, très fragiles, parce que dès qu'on détruit la zone humide ou dès qu'on l'impacte un petit peu, ça peut les faire disparaître.
Évidemment. Dites-moi, ces compagnols, en fait, donc on a compris qu'ils sont très mignons, ils sont remarquables sur plein de points en raison de leurs adaptations, même s'ils ont peu de spécificités. Comment vivent-ils? Comment se reproduisent-ils? Quelle est leur vie sociale? Expliquez-nous tout ça, vous qui êtes vraiment un fin connaisseur de tous ces petits animaux qui passent souvent assez inaperçus.
Et oui, on les voit jamais. Et franchement, ils sont tellement discrets qu'en général, quand on les repère, c'est plutôt qu'on trouve leur crotte. Ça fait le lien avec ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on
décidément, alors ce n'était pas volontaire aujourd'hui, c'est un sujet récurrent dans cette émission.
Ben, vous savez, quand on s'intéresse sur le terrain aux mammifères sauvages, eh bien souvent on cherche leurs traces, leurs indices. Et pour les campagnols amphibies, c'est surtout leur petite crotte verte qu'on cherche et qui permet de déceler leur présence. C'est comme ça qu'ils ont été trouvés sur ce projet de déviation routière. Les campagnols amphibies, ils sont vraiment liés au milieu aquatique, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller, par exemple, manger vos plantations, ou manger dans votre potager, ou commettre des dégâts dans les parcelles agricoles. Donc ils embêtent vraiment personne, ils font leur vie de façon très discrète. Ils sont territorialisés sur une petite portion de cours d'eau, et ils naviguent comme ça à l'interface entre l'eau et la surface, et la berge. Ils se nourrissent de plantes qu'ils trouvent soit dans l'eau, soit des plantes aquatiques, soit qui poussent vraiment juste au bord de l'eau. Et ce qu'ils adorent, c'est être planqués sous la végétation, sous l'herbe, pour éviter d'être repérés par les prédateurs. Ils font leur petite vie comme ça, de façon complètement discrète, chacun avec son petit territoire. Et la reproduction qui commence à peu près maintenant, avec les beaux jours, avec le printemps, eh bien, c'est des petits campagnols qui vont naître dans un terrier. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'entrée est planquée sous l'eau, ce qui fait que tout ça est parfaitement invisible. Et ensuite,
ils ont des grands terriers élaborés comme ceux des castors, par exemple.
Non, c'est très simple. C'est juste un trou d'entrée sous l'eau qui amène à une cavité qui est cachée dans la berge. Et ça les rend assez fragiles, notamment par rapport aux éventuelles modifications du niveau d'eau, par exemple. Mm-hmm. Si le niveau monte, évidemment, ça peut les noyer, etc. Donc c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans ce genre d'espèces-là, c'est que ils ont une niche écologique qui est assez spéciale, et ça confère plein d'avantages, mais ça confère aussi beaucoup d'inconvénients, parce que c'est un milieu qui est instable. Ils dépendent beaucoup, en fait, de ce que font les humains au bord de l'eau, même de façon parfaitement involontaire, sans les connaître. Par exemple, si vous avez un bord de rivière qui passe au fond de votre jardin, ou si vous êtes agriculteur et que vous avez un fossé ou un ruisseau qui passe au bout de la parcelle, rien que le fait, par exemple, de tondre l'herbe un petit peu trop ras, même si pour vous c'est pas du tout préjudiciable, ça va mettre en évidence ces campagnols qui n'auront plus ce petit couvert végétal sous lequel se cacher. Et évidemment, les pelleteuses, c'est encore pire, parce que là on détruit carrément les portées de campagnols dans leur terrier, et si on les détruit pas, on modifie tellement le milieu que les campagnols ne peuvent plus vivre là, donc ils sont obligés
surtout
de partir.
Oui, surtout, on détruit ces zones humides qui, deviennent totalement inhabitables pour tous ces animaux dont c'est l'habitat naturel.
Exactement, parce qu'on parle des campagnols amphibies là, parce que c'est une espèce protégée, qui est protégée depuis quelques années, parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de menaces sur cette espèce et que les effectifs étaient plutôt en déclin et que l'espèce devenait rare. Mais il y a plein d'autres animaux qui sont complètement liés aux zones humides, et c'est pas, une lubie d'écolo de rappeler que la disparition des zones humides, c'est la disparition de plein d'espèces qui sont liées à ces endroits-là. Et puis aussi, c'est la perte de toute une fonction de ces écosystèmes. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet précis de ces animaux sauvages, mais en fait, ces animaux vivent dans des zones humides qui ont aussi un rôle écologique extrêmement important pour en retenir, prévenir les inondations, pour au contraire stocker de l'eau qui peut être diffusée lors des sécheresses, etc. Donc en fait, quand on touche à ces animaux-là qui sont classés protégés, c'est aussi des milieux qui peuvent être utiles aux humains qui sont impactés. C'est pour ça que c'est important de considérer ces animaux spécialisés des zones humides.
Ce sont un peu des ambassadeurs de ces zones qui sont essentielles finalement à la vie de notre nature. Est-ce qu'ils ont un rôle écologique particulier, ces petits campagnols amphibies, Pierre ?
Alors, je mentirais en vous disant que s'il n'y a plus de campagnols amphibies, ça va être s'il n'y a plus de confiance amphibie en tant que tel et que le reste ne bouge pas, que pour nous, ça va nous changer notre quotidien. Non, ça fait partie de ces animaux où, bien sûr, qu'ils sont complètement impliqués dans les écosystèmes parce que eux-mêmes sont, par exemple, quand même la proie, même s'ils sont assez discrets et qu'ils arrivent à éviter beaucoup de prédateurs, mais ils sont quand même mangés, par exemple, par des loutres d'Europe ou par d'autres. Donc, effectivement, ça a des implications en cascade sur le plan écologique. Mais bon, vous et moi, si les compagnons amphibies disparaissent demain, ça changera pas notre vie. Mais c'est ça qui est difficile à faire comprendre quand on s'intéresse aux animaux sauvages ou à la nature en général. C'est que, effectivement, si on fait disparaître un élément, par exemple, une espèce animale, ça n'a peut-être pas d'implication directe, mais par l'absurde, ben, si on commence à tout éliminer, à la fin, il reste plus rien, et à la fin, c'est catastrophique sur le plan écologique. Donc, je pense qu'il faut s'intéresser, par exemple, aux campagnols amphibies, en tant que tels, même s'ils nous apportent rien de façon directe, en considérant qu'ils font quand même partie ils sont quand même un maillon de toute cette chaîne, chaîne que si on brise les maillons un par un, à la fin c'est catastrophique. Voilà.
À la fin, effectivement, c'est catastrophique. Et c'est bien de parler de ces zones humides, car on sait aujourd'hui à quel point elles sont absolument utiles pour nous, les êtres humains, mais aussi pour l'ensemble de la biodiversité. Pierre Rigaud, merci beaucoup pour toutes ces explications. On peut vous retrouver, bien sûr, sur vos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où vous êtes extrêmement actif avec des plaidoyers réguliers en faveur de la faune sauvage.
Merci Natacha, et si je peux dire juste un tout petit mot, pour les gens qui sont en Haute-Loire, d'essayer de rejoindre les associations locales de protection de la nature qui luttent contre ce projet de déviation routière. Je pense à France Nature Environnement Haute-Loire, à la Ligue pour la protection des oiseaux Haute-Loire, à SOS Loire Vivante, et aller voir la lutte des sucs, parce que les sucs, pour les gens qui ne sont pas dans le coin, c'est les fameux volcans des Haute-Loire qui donnent ce paysage si caractéristique, donc essayer d'aider les gens qui localement essayent de protéger la nature, et notamment les campagnols amphibies.
Message passé, Pierre. Merci à vous, très bonne journée, très bon week-end.